PMA et puis quoi? PMA pour procréation médicalement assistée. Un balado 100% bénévole, initié par la cigogne n'a pas notre adresse. Bienvenue dans le premier épisode intitulé « La fertilité apprivoisée ». J'ai le plaisir de parcourir des moments marquants, inspirants et informatifs de l'entretien que j'ai eu avec l'organisme Serena Québec, organisme national fondé en 1955. J'aborde avec Nathalie Grégoire Charrette, directrice générale à Serena Québec, la définition de la fertilité, la méthode symptothermique, les aspects préventifs liés à la fertilité, la sexualité et les enjeux liés à la gestion naturelle de sa fertilité. Bonne écoute! Bonjour Nathalie!
Oui, bonjour Roxane!
Alors, parle-moi un petit peu de Serena Québec. Quelle est votre mission? Quels sont vos services?
Donc, comme tu as bien expliqué, Serena Québec existe depuis 1955. On est, dans le fond, partout à travers le Québec. Donc, on est vraiment un organisme national. Et, dans le fond, on est le seul organisme aussi spécialisé en gestion naturelle de la fertilité qui est reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Notre travail est vraiment de promouvoir et d'enseigner la méthode symptothermique. Donc, on en est vraiment porteur.
Le seul organisme reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec en gestion naturelle de la fertilité. Tu le savais pas, hein?
Et on a, grâce à une équipe de médecins conseils, on veille à toujours peaufiner, améliorer, veiller à l'évolution de la méthode symptothermique depuis 1955. On a, dans le fond, dans nos services, on offre via les 5 champs d'application de la méthode, qui sont, dans le fond, la contraception, la conception, le retour de fertilité après une naissance, la périménopause et la santé du cycle menstruel. On offre des services d'information, d'accompagnement et d'éducation.
Donc, on parle de fertilité. Pour monsieur et madame tout le monde, on peut s'imaginer bien des choses sur la fertilité. Est-ce que tu veux nous décrire qu'est-ce que la fertilité au juste?
Bien, pour Serena, en fait, la fertilité, c'est principalement une phase de fertilité pendant le cycle menstruel de la femme. Donc, c'est sûr qu'au niveau théorique, la fertilité, c'est la capacité de concevoir pour un couple et de pouvoir poursuivre une grossesse. Mais comme je dis, chez Serena Québec, la manière dont on aborde la fertilité, c'est d'être capable d'enseigner aux gens de cerner la phase dans le mois où ils sont, dans le fond, en mesure où ils pourraient espérer pouvoir concevoir. La fertilité aussi, ça se joue à deux. Donc, la fertilité seule, bien qu'on pourrait avoir des ovules, ovuler chaque mois ou encore avoir un sperme de qualité, avoir beaucoup de sperme, de spermatozoïdes, seule, on n'est pas fertile. Donc, la fertilité, c'est la capacité de concevoir. Donc, ça prend les deux personnes. Donc, c'est comme ça qu'on conçoit la fertilité chez Serena Québec.
Dans les ateliers, dis-moi, quel est le portrait actuel des motivations qui poussent les gens à venir vous voir?
Je te dirais que moi, je trouve ça toujours intéressant parce qu'en début d'atelier, je prends toujours le temps de demander aux gens quelles sont leurs motivations, okay, pour être présents à l'atelier. Et je suis toujours, en fait, je suis toujours impressionnée dans l'ouverture que les gens ont d'en parler. Donc, ils sont vraiment, vraiment ouverts et il y en a une grande proportion, la plus grande proportion des femmes qui sont là, entre autres, ils ont vraiment un élan du cœur de dire qu'ils ne supportent plus les effets secondaires de la contraception hormonale. Il y a aussi beaucoup de femmes et d'hommes qui sont curieux de vouloir reprendre du pouvoir sur leur corps et d'augmenter leur niveau de connaissance sur la physiologie du corps de la femme, mais aussi au niveau de la biologie humaine, au niveau des principes de base de la fertilité humaine. Donc, comprendre comment ça fonctionne, la fertilité, et ils sont toujours stupéfaits de se rendre compte qu'ils ne savaient pas ça alors qu'ils avaient eu déjà au secondaire des cours de biologie. Donc, une espèce de mise à niveau. Les gens viennent, je dirais, venir chercher une mise à niveau au niveau des connaissances de base qui, légitimement, croient que c'est légitime pour eux de vouloir le savoir. Et nous, évidemment, on est là pour ça parce qu'on pense qu'effectivement, tout le monde devrait savoir ces informations-là. Puis sinon, mais je te dirais qu'une autre des motivations, une troisième motivation qu'il y a, c'est vraiment le partage et le partage de la contraception. Donc, vraiment au niveau égalitaire, le vivre ensemble.
Se redonner un pouvoir sur sa fertilité en tant que femme, en tant que couple, c'est vraiment quelque chose à faire rayonner au Québec. Pour ma part, je t'ai mentionné en fait que Serena fait partie de nos vies. On était vraiment dans la fleur de l'âge, en pleine santé. On pensait avoir un bébé super rapidement, ce qui ne s'est pas passé en fait. Et puis, à travers la méthode symptothermique, j'ai appris à connaître davantage mon corps, mon cycle menstruel. La méthode nous a vraiment mis la puce à l'oreille d'une infertilité et on a pensé à une infertilité masculine, ce qui était le cas. En lien avec le graphique de la méthode symptothermique, est-ce qu'il y a des indicateurs qui soulèvent un problème de santé?
Oui, mais c'est ça. Donc, on parlait plutôt hein, que nous, on fait dans le fond des activités d'éducation en lien avec, dans le fond, avec la méthode symptothermique, on l'enseigne. Dans le cadre des ateliers, comme tu parles, du graphique, ce qu'on enseigne, c'est de faire l'observation des trois signes de fertilité, que sont la température basale, la glaire cervicale et le col de l'utérus. Donc, en apprenant aux gens à faire, mais surtout aux femmes qui vont faire l'observation de ces signes-là, ils vont les répertorier dans le graphique. Une fois que les informations vont être cumulées au fil des jours, on va être capable de voir, dans le fond, dans le cadre, mettons, on va parler d'un cycle où il y a une ovulation, OK? On va être capable de voir un phénomène qui progresse et qui régresse, OK? Donc, on a comme, je dirais, des normes observées, c'est-à-dire que quand on ovule, on a un plateau de température basale en début de cycle qui va être bas, un plateau de température bas, puis ensuite de ça, on va avoir un plateau de température haute. Okay? Donc, les températures basses, en fait, et les températures hautes vont vraiment venir se démarquer dans le graphique et de cette manière-là, on est capable de confirmer que dans le cycle, il y a eu ovulation. Okay? Donc, si on n'est pas capable de voir qu'il y a ovulation, c'est-à-dire que les températures, le plateau de température basse demeure et persiste tout au long du cycle, ou en tout cas des jours, on est capable de voir que ce cycle-là, il n'y a pas d'ovulation. On sait aussi que l'ovulation, c'est un peu un signe de santé, okay? Donc d'équilibre hormonal, d'équilibre dans le corps. Donc, de voir qu'on n'ovule pas peut nous amener à se questionner. Donc, on va vraiment augmenter le niveau de conscience sur l'impact de nos choix, de notre environnement sur notre cycle hormonal, parce que les hormones de fertilité sont des hormones qui sont quand même sensibles. Okay? Donc, elles recherchent un équilibre pour pouvoir œuvrer. Donc, s'il y a trop d'exemples d'hormones de stress, on sait que ce n'est pas favorable pour l'ovulation. Les hormones qui permettent l'ovulation sont vraiment intimidés par la présence des hormones du stress, on va dire ça comme ça. Donc, c'est entre autres un enjeu qu'on va parler lors de l'atelier conception. Et ensuite de ça, ce qu'on peut voir, quand on constate, quand on observe son cycle, on peut voir, exemple, oui, qu'il y a eu ovulation, mais on peut voir que ce mois-ci, l'ovulation est arrivée beaucoup plus tard. Donc, dans le cas des femmes, il y a des fois, je parlais justement hier à une femme qui avait des cycles qui partaient de 28 jours jusqu'à 60 jours. Ce n'est pas une norme observée. Mais un cycle qui va au-delà de ça, là, qui change beaucoup, là, comme la dame, là, de 28 à 60 jours, on parle vraiment là, de cycle irrégulier. Et on est capable de voir que quand le cycle s'allonge, mais qu'il y a ovulation, c'est souvent que l'ovulation tarde à venir. Et donc là, on peut, en sachant la période que l'ovulation aurait dû, de façon normale pour la femme, arriver, selon ses cycles précédents qu'elle a observés, que ce n'est pas arrivé, bien là, on est capable de voir avec son agenda, on est capable de voir avec les notes, qu'est-ce qui est arrivé dans cette période-là. Alors là, on va encore plus loin sur qu'est-ce qui a une incidence sur mon corps hormonal, donc sur finalement sur mon ovulation dans le cas de ce qu'on observe, là, au niveau de ma fertilité, qu'est-ce qui a un impact, et donc de venir finalement faire des ajustements à ce niveau-là. Donc, ça nous indique ça. Donc, pas d'ovulation, une ovulation retardée sont des signes qu'on peut voir avec le graphique. Au niveau d'une température basale qui est très basse, ça aussi, c'est un indicateur de santé qui pourrait nous préoccuper. Pas toujours, mais lorsque la température basale, elle est très basse, ça fait partie, entre autres, de situations où la femme pourrait faire de l'hypothyroïdie. Okay? Donc, ça se voit dans les cas d'hypothyroïdie comme une température basale qui est plus haute, qui approche le 37 degrés. C'est une température basale qui veut dire que peut-être que de l'hyperthyroïdie dans ce cas-ci. Donc, la température basale, sa fluctuation ainsi que son niveau sont aussi des indicateurs. Parce qu'un graphique, par exemple, où on n'aurait pas tant des plateaux, mais on aurait comme vraiment des températures accidentées, là, tu sais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, dans si, ouais, exactement. Donc là, ça aussi, ça nous indique qu'il peut se passer quelque chose dans le corps hormonal de la femme. Donc, la température basale, la manière dont elle se comporte, va nous donner aussi des informations. Cela étant dit, nous, on pose pas de diagnostic, on n'est pas des professionnels de la santé. Nous, on maîtrise très bien, dans le fond, comment faire la gestion naturelle de la fertilité, comment utiliser la méthode symptothermique pour être à l'affût, en fait, de ce qui se passe dans le corps. Par contre, du moment où on a une préoccupation, c'est sûr qu'il faut aller chercher un allié externe. Mais là où la méthode symptothermique est un allié de taille, c'est que quand on arrive chez le médecin, puis qu'on a vu qu'on n'ovule pas, qu'on a vu que l'ovulation, des fois, tarde à venir, qu'on a vu que, des fois, la température est en dents de scie, bien là, on est capable de démontrer, c'est comme une étude scientifique en soi, de ce qui se passe dans notre corps, puis de donner ça à notre médecin qui ne peut pas faire fi de ça dans son analyse. Donc, la méthode symptothermique, elle est un allié de taille en ce sens-là. Puis l'autre petit point, je te dirais, j'ajouterais qu'on peut voir avec la méthode aussi, c'est au niveau de la phase lutéale. Donc, c'est la phase post-ovulatoire. La longueur de la phase lutéale, OK, si elle est plus courte que 10 jours, OK, ça peut être préoccupant. Plus courte que 10-11 jours, là, ça peut être préoccupant parce que le corps n'a pas sécrété assez de progestérone pour permettre à l'endomètre dans l'utérus, okay, de se développer et de permettre à un embryon de s'accrocher. Donc, parfois, ça peut être problématique. Des fois, des femmes font des fausses couches à cause de ça, ont de la difficulté à voir des grossesses se poursuivre. Donc, quand la femme en préconception, donc c'est-à-dire que quand elle commence, souvent on a des cas comme ça intéressants, tu sais, qui disent, ben éventuellement on voudrait avoir des enfants, fait que là on délaisse tout ce qui est hormonal, et là on va prendre la méthode pour comprendre notre corps. Donc ils sont en train d'apprivoiser la parentalité, leur fertilité et tout ça graduellement. Et je leur dis tout le temps, mais je dirais que c'est probablement, tu sais, d'avoir utilisé en contraception la méthode symptothermique va nous positionner dans un état d'esprit qui va être encore plus favorable pour la conception. D'une part, connaître sa phase fertile. Mm-hmm. D'autre part, avoir des attentes réalistes. Si par l'observation du cycle, on se rend compte qu'il y a des anomalies, si la femme s'est rendue compte que, moi, c'est vrai, ma phase lutéale, elle est courte, mais elle peut déjà être proactive et aller en parler avec son médecin. Puis peut-être qu'il y a des prises de sang qui peuvent être faites, il y a des investigations. Donc, avant de commencer à être dans la chambre à coucher, physiquement sur le projet de concevoir, il faut avoir des attentes réalistes.
Donc, vraiment, là, se réapproprier sa fertilité, les connaissances de son corps devient un allié. Puis, on parlait aussi, on a eu la réflexion de la rapidité, la croyance que la grossesse est quelque chose de rapide, quelque chose de simple. Quand on introduit aux jeunes filles la pilule contraceptive, Une des premières choses, c'est tu vas pas tomber enceinte, on va régler ton acné, tes cycles irréguliers parce que tu dépenses de 3 jours, tu sais. Donc, vraiment, il y a comme cette pensée magique, soit avec la pilule contraceptive, mais aussi que quand tu vas arrêter la pilule, tu vas tomber enceinte, ça va être facile, quelque chose de rapide. Donc, qui est vraiment ancré, je pense, dans les pensées aujourd'hui.
Oui, exactement. Puis dans la facilité qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est très, très paradoxal parce qu'on est dans une société d'instantanéité. Mm-hmm. Tout est à 2-3 clics. De comprendre que ça se passe pas comme ça.
Et là là, cette rapidité, cette facilité qu'on a tellement espérée, qu'on a tellement souhaitée, moi, je vous la souhaite sincèrement.
Et d'autre part, on est dans une société où le niveau de performance et de stress... Concevoir en 2020, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. Il y en a qui vont y arriver plus rapidement, mais ne pas avoir conçu, comme je disais à la dame hier, ça faisait 6 mois qu'elle avait ouvert la porte à ça. Mais je lui ai dit, est-ce que c'était bien cerné, la phase de fertilité? Parce que moi, quand quelqu'un me dit ça fait 6 à 12 mois que je suis en recherche de grossesse, OK, est-ce que tu avais bien cerné, vous aviez bien compris votre phase de fertilité? Pas tant. OK, bien, j'ai envie de te dire en toute bienveillance, tous les mois où tu sais que tu ne savais pas exactement c'était quand ta phase de fertilité, je les enlèverais de la comptabilisation du 6 à 12 mois pour enlever une pression. en début là, d'atelier, on demande toujours, selon vous, quel est le temps de survie de l'ovule et du spermatozoïde. Ceux qui ont fait des lectures, souvent, ils sont pas mal dans le mille. Donc, ils s'en souviennent. Puis non. Les autres, là, ils sont souvent... Tu sais, l'ovule vit de 8 à 12 heures.
De 8 à 12 heures?
OK. Il y en a souvent qui pensent
moi,
que... Le...
Par mois? Par mois, 8 à 12 heures?
Dans le mois, ça vit 8 à 12 heures. Donc, et ensuite de ça, ben il y en a qui disent ben ça vit 4-5 jours. Mm-hmm. Non. Donc, tu sais, il y a vraiment... si on ne comprend pas bien comment ça fonctionne, à la base, c'est sûr qu'on n'a pas des attentes réalistes. Donc, non, ce n'est pas nécessairement facile de concevoir. Ça va l'être plus pour les gens qui sont plus conscients puis qui ont un facteur environnant ou des au niveau des choix de vie qui vont être plus favorables, effectivement. Ces gens-là sont souvent des gens qui vont avoir plus de facilité. Puis bien qu'on observe le cycle de la femme, si on a un cycle de la femme, comme dans ton cas à toi, mm-hmm. avec ton conjoint, toi, tu as un cycle, tu dis, au quart de tour, ovulation, impec, tout est là. Puis là, vous connaissez votre phase. Puis là, ça fait 2-3 mois, vous essayez, mettons, là, je ne sais pas si c'est exactement ça que vous avez fait, mais on va prendre un coup de figure.
Ah,
oui. On essaye. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais ça peut être un indicateur pour dire, peut-être que le conjoint devrait investiguer de son côté. Parce que l'investigation pour la femme, elle est faite au quotidien avec la méthode symptothermique. Moi, je dis toujours, tu sais, ça vous donne du pouvoir de savoir et ça vous permet, tu sais, si on rencontre des situations qui sont moins désirées parce qu'on a pris contact avec son pouvoir plus tôt, en amont, avant de rencontrer une période problématique, ça va nous donner beaucoup plus de force, de courage, de détermination si on rencontre des défis après.
C'est tellement inspirant, puis j'espère que ça va faire son bout de chemin chez les personnes qui nous écoutent, puis d'en parler autour de soi, si c'est pas quelque chose nécessairement qui répond à nous, mais ça peut l'être pour notre petite fille, notre petit garçon, notre cousin-cousine, amis et collègues. Donc, en effet, c'est toute une reprise de pouvoir et de connaissances qui est fort intéressant, puis un cadeau à s'offrir à soi. Puis à son couple. Dans le savoir que détient l'organisme, est-ce que tu peux nous partager des éléments clés qui peuvent jouer sur la santé reproductive? Tantôt, tu as parlé d'environnement, le stress. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient être un allié pour la santé reproductive des gens?
Oui, bien, c'est sûr que quand on est en recherche de conception, le stress fait partie des enjeux, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont importants, comme par exemple, bon, la consommation, c'est sûr que de drogue, d'alcool, de cigarettes, okay, c'est sûr que ça a un impact sur l'organisme. Donc, ça a un impact sur l'organisme, et oui, ça a un impact sur le système, le corps hormonal. Et comme je disais tout à l'heure, le corps hormonal, il est sensible. Drogue, alcool, cigarettes, donc, ce sont des choses qui ont un impact sur la fertilité. C'est reconnu. Donc, il faut voir, est-ce que dans le fond, on a un comportement qui pourrait mettre à risque notre fertilité? Il y a aussi, évidemment, les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, on est beaucoup sensibilisés. On reçoit beaucoup d'informations dans les dernières années à ce sujet-là. Au niveau des produits ménagers, au niveau des produits qu'on utilise, au niveau des produits de soins corporels, de soins personnels, donc au niveau des contenants de plastique. Donc, on a beaucoup d'informations, même dans les vêtements des fois. Donc, il faut voir, est-ce que, moi, la première question que je me pose, c'est quelles sont mes habitudes de vie? Est-ce que je savais ça? Donc, si je ne savais pas ça, c'est sûr que dans mes choix du quotidien, consciemment, je ne fais pas des choix pour me protéger. Donc, il faut déjà être conscient, accepter ça. Et ensuite, prendre sa responsabilité puis se dire, ben, je vais aller chercher plus d'informations sur tel ou tel produit que j'utilise, etc. Donc, il y a plein de cours, il y a plein de les naturopathes, il y a plein de gens qui vraiment font beaucoup de sensibilisation. Le ministère de la Santé, Santé Canada, font aussi des campagnes de sensibilisation là-dessus et mettre en place des programmes pour certifier des produits qui contiennent pas justement des éléments qui sont à risque pour la santé. Donc, augmenter notre niveau de conscience. Parce qu'après l'ère de l'industrialisation, où est-ce qu'on s'est mis à produire en masse des produits, hein, on va chez des magasins grande surface, du produit, il y en a, ça n'a pas de sens. Donc, mais on a pris ces produits-là, Et on ne s'est jamais posé de questions jusqu'à dans les dernières années. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder à ce niveau-là.
Donc, vraiment, on essaie pour s'aider dans notre fertilité, d'avoir une santé globale, finalement. D'optimiser oui. notre santé globale.
Oui,
pour exactement. Améliorer notre santé reproductive.
Oui, exactement. C'est une santé globale. C'est un peu comme aussi les principes écosystémiques, dans le sens que c'est un ensemble de facteurs à prendre en compte pour, dans le fond, veiller sur notre santé. Donc, on est des acteurs très importants dans notre santé. Donc, pas juste quand on est malade d'aller voir le médecin. Il faut en amont être proactif sur la gestion de sa santé. Puis, en venant à notre atelier, évidemment, on sensibilise les gens, on donne d'autres informations, on parle de la nutrition, des choses comme ça. Donc, ça vaut la peine de venir à l'atelier pour, oui, comprendre la fertilité, oui, avoir ces informations-là, mais aussi avoir des échanges, discuter, amorcer cette réflexion-là sur quelles sont mes habitudes de vie, est-ce que j'ai des choses que je devrais changer. Tout ça, ça se fait pas juste, c'est pas parce qu'en sachant ce qu'on dit aujourd'hui ou en venant à l'atelier, c'est pas de le savoir ne va pas faire tout le travail.
L'expertise que détient Serena Québec sur la gestion naturelle de la fertilité aurait vraiment pu nous aider. J'aurais tellement aimé connaître l'organisme avant. Leur atelier, leur savoir aurait pu nous guider avant même le projet de conception dans nos choix de vie afin de favoriser une santé reproductive et dresser même un portrait plus réaliste de notre aventure de la conception, comme Nathalie l'a si bien expliqué.
On avait un portrait comme très négatif, nous, de notre fertilité, les diagnostics, les examens, c'était très négatif. On se sentait vraiment impuissant. Puis après avoir sorti d'un atelier de Serena, on a fait « OK, où est-ce qu'on peut prendre action? » Fait que ça devenait, on était moins victime un peu de la situation, de l'injustice, de la maladie, de l'infertilité. Puis, on s'est doté d'outils pour améliorer notre santé reproductive. Fait que ça a vraiment fait du bien à notre morale, puis à notre pouvoir d'agir, tu sais, avoir un agir, dans le fond, sur notre environnement. Donc, ce fut très aidant, puis ça redonne un certain pouvoir quand on vit une situation d'infertilité ou en recherche de grossesse. Dis-moi, Nathalie, on parle de la communauté LGBT+. Est-ce que l'organisme rejoint dans son expertise donc la communauté sur la fertilité apprivoisée? Comment qu'on peut rejoindre la communauté LGBT?
Mais en fait, chez Serena Québec, on a toujours les valeurs d'égalité, d'inclusion. C'est vraiment, vraiment important pour nous. L'empowerment est aussi très important. Donc, on rend accessible, évidemment, la méthode s'adresse vraiment à tout le monde. On a toutes sortes de motivations qui amènent les gens à venir chez nous. Donc, nécessairement, que je dirais que pour la conscientiser toute personne, peu importe d'où elle vient, où elle est, on a intérêt à développer davantage justement nos initiatives en termes de prévention et de sensibilisation. Donc ça, c'est quelque chose que Serena Québec veut faire, d'aller davantage vers les gens, peu importe où ils sont, qui ils sont, leur situation. Pour la communauté LGBT+, je veux dire, on ne cible pas une clientèle particulière, dans le sens que j'ai l'impression que ça répond un peu à ta question par rapport à l'inclusion, c'est-à-dire que nous, c'est tout le monde, peu importe.
Que de bonnes nouvelles. Nathalie, on s'approche de notre fin, de la fin de notre rencontre, et j'ai envie de poser en fait la dernière question en fait de notre rencontre. Quand on est dans un processus de procréation médicalement assistée, la sexualité des couples peut devenir très souvent mécanique, même stressante, puis apporter une lourdeur. Donc, en quelques mots, comment les couples peuvent vivre différemment leur sexualité?
La relation sexuelle, c'est la manière dont on va vivre notre sexualité avec quelqu'un d'autre. Donc, la relation sexuelle, il y a le coït, mais si on a focalisé beaucoup que la relation sexuelle qu'on a avec l'autre est basée sur une relation coïtale, c'est sûr que dans la recherche de conception, la pression devient vraiment immense. Mm-hmm. Parce que c'est essentiellement ça qu'on a l'habitude ou qu'on conçoit les choses de cette façon-là.
Une pression immense qui résonne chez plusieurs couples. Un sujet qui revient dans d'autres épisodes.
comment vivre la période de fertilité quand on ne veut pas concevoir, mais avoir quand même une vie sexuelle, et comment, quand on veut concevoir, ne pas tomber un peu dans le côté mécanique et d'avoir une lourdeur, mais dans un autre sens, une pression dans un autre sens. Tout ça, ça se passe vraiment sur le même plan, alors que la sexualité, c'est beaucoup plus large qu'un simple, une simple pénétration. Pénétration, éjaculation, je veux dire, c'est beaucoup plus large que ça. C'est, ça part en amont avec la communication ouverte. Ouais. Ça part avec la capacité d'entrer en intimité à travers cette communication-là. La capacité de comprendre que les attentions, le toucher, le être ensemble, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui permet justement au couple de s'ouvrir, de vivre différemment la sexualité, de retrouver finalement sa sexualité bien ailleurs que dans pénétration, éjaculation. Donc, c'est sûr que je pense que la pression, elle est plus grande au niveau de quand on veut concevoir, elle va être plus grande si on a perçu la relation sexuelle avec l'autre beaucoup basée sur au niveau coïtal. Ça vient pas, c'est pas de la faute des gens, ça vient aussi d'une éducation. Ça vient aussi d'un manque d'information, un manque d'aisance à discuter ouvertement de la sexualité. Et qu'il y a une, c'est sûr qu'il y a une époque où est-ce que c'était très mécanique aussi la sexualité. Donc aujourd'hui, en 2020, la pression que là où ça s'est devenu vraiment une problématique, un enjeu pour les gens qui veulent concevoir, c'est que toute cette histoire-là au niveau de la société fait en sorte que les couples d'aujourd'hui, quand ils ont de la difficulté à concevoir, l'acte coïtal devient une pression. Donc, il faut peut-être revenir en arrière, puis se reparler, puis dire, s'aimer, c'est quoi? Nous, comment on peut se le démontrer? Parce que, bon, là, on veut concevoir, mais il va y avoir des phases dans la vie où est-ce qu'il y a une ou l'autre des personnes qui n'aura pas de libido? Est-ce qu'on n'est pas en relation parce qu'on ne peut pas avoir une relation coïtale? C'est ce que permet, entre autres, aussi la méthode synctothermique, c'est de se questionner davantage, de prendre le temps de se parler, de se dire ces choses-là, qui n'est pas nécessairement toujours facile pour les couples d'aborder ouvertement ce genre de sujet-là. C'est pas tout le monde qui parle ouvertement de la sexualité comme ça, de comment ils se sentent et tout ça.
Ça ajoute un plus, justement, à l'esprit, l'approche, en fait, de la méthode synctothermique, les valeurs, les avantages aussi enseignés puis véhiculé dans les ateliers avec Sérima Québec.
Oui, puis c'est un peu comme si on disait que les préliminaires, ça se fait à l'extérieur du lit, ça se fait dans la semaine, ça se fait dans les jours, ça se fait au quotidien, les préliminaires, donc d'être à l'écoute de l'autre, d'être dans... c'est ça. Donc, il y a une façon de ne pas non plus restreindre la sexualité à un moment précis dans la journée, dans la semaine, dans le lit, de ci, de ça, tu sais. Être plus ouvert, dire que vraiment la relation sexuelle, c'est une relation qui se vit à deux. Donc, dans l'écoute, dans l'intimité, dans l'ouverture. C'est très difficile, c'est difficile pour l'homme. Ouais. Ça peut même devenir, il y a des hommes qui, dans cette pression-là, ont de la difficulté même à avoir une érection. Mm-hmm. Des femmes qui ont de la difficulté à lubrifier, à avoir du plaisir et tout ça. Et ça, c'est pas un contexte favorable pour concevoir là, cette pression-là. Donc, globalement, moi, je pense que les principaux enjeux en lien avec la gestion naturelle de la fertilité, c'est vraiment au niveau du manque d'éducation, de sensibilisation, d'information. Donc, ça, on le sait. Puis la prévention, c'est tellement fondamental. Donc, c'est sûr d'avoir donné l'information plus tôt dans la vie des gens, d'avoir plus d'éducation en termes de la vie sexuelle, parce que la fertilité, c'est quand même à travers une vie sexuelle, une relation sexuelle avec l'autre. Donc, ça, d'avoir plus d'informations en amont. Et parce que c'est ça. Donc, la fertilité, c'est une chose au niveau physique, biologique, mais c'est aussi une relation avec l'autre. C'est pas juste mécanique, physique et théorique. Là, c'est une expérience de vie humaine. Donc, il faut être conscient de ça. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut travailler, c'est l'automatisme souvent dès les premières règles, d'aller vers la contraception hormonale. Qui est beaucoup que les femmes vivent lorsqu'elles vont voir leur médecin. Et donc, que l'alternative, entre autres, de la méthode de la synthothermie qui est méconnue, elle est souvent, dans le fond, comparée à la méthode soit du, euh, du thermomètre ou du calendrier. Mais nous, comme vous avez, comme on a pu expliquer aujourd'hui, on est à la fois, on a effleuré un peu le sujet de ce qu'on enseigne, mais en venant à l'atelier, les gens vont comprendre que c'est une méthode qui est 100% scientifique, bien qu'elle est zéro chimique. Et elle est méconnue encore aujourd'hui. Puis on est très content de voir les participants qui disent, ben moi, je vais retourner vers mon professionnel pour lui parler de la méthode puis lui montrer les informations que j'ai reçues chez vous. Et je pense qu'il faut le faire en toute bienveillance parce que s'ils le font pas, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas l'information dans leur formation. Donc, c'est pas nécessairement de mauvaise volonté.
Non, tout à fait. Mais ça reste un enjeu de faire connaître l'organisme et la méthode septothermique.
Oui, exactement. C'est de là notre mission.
Oui, merci beaucoup Nathalie, qui est directrice générale à Serena Québec, qui nous a accordé son temps, ses informations et son expertise. Je te remercie beaucoup. Puis, je vous souhaite vraiment là, de fleurir et de rayonner là, dans la population.
Merci, merci à toi. Merci pour ce beau projet, cette initiative-là aussi, pour permettre de rendre accessible en fait les informations que tu transmets à travers tes balados et d'aller rejoindre les gens dans leur maison. En période de confinement, je pense que ça va trouver bon nombre d'oreilles à l'écoute et attentives à toutes ces informations-là.
Ce fut un réel plaisir de discuter avec Nathalie de la fertilité apprivoisée selon Serena Québec. Vous pouvez facilement les retrouver via leur page Facebook ou leur site web. Merci d'avoir été à l'écoute pour ce premier épisode. La semaine prochaine, la peur de l'infertilité. On parle anxiété, questionnement, amitié et le fameux lâcher prise. Une réalisation 100% bénévole initiée par la Cigogne n'a pas notre adresse. Merci à Dave Racine pour la composition musicale. We'll be right back.